voix nue. Toute cette semaine, Virginie Bloch-Lenné rencontre Lydie Salver. Ce soir, l'Espagne.
Bonsoir Lydie Salver.
Bonsoir.
Être espagnole, c'est dans la vie un réel handicap. C'est ce que dit le narrateur de votre roman La puissance des mouches. Mais dans la méthode Mila, le narrateur dit « J'étais en Espagne, à Cordoue, qui m'ouvrait sur l'Orient, sur les rives roses du Guadalquivir. » Mila, c'est une voyante et elle retrace l'histoire épique et merveilleuse de votre nom de famille, Lydie Salver, à Rona.
Oui.
La splendeur du destin familial qui lui était attaché. Et dans ce roman, qui est un réquisitoire contre Descartes, la respiration, la compréhension, le réconfort viennent du Sud et de l'Orient, souple, ouvert. L'Espagne, c'est l'Espagne arabo-andalouse, c'est les mille et une nuits. Lydie Salver, en quoi vous êtes espagnole?
J'ai un nom espagnol, Arjona, et ce qui me ravit dans ce nom, c'est qu'il pourrait être à la fois d'origine juive et d'origine musulmane. Il pourrait être les deux. Les deux m'ont dit qu'il y avait des significations possibles de ce nom. C'est le nom d'un petit village de l'Andalousie et qui, je suppose, a dû être occupé par les Arabes et habité par des Juifs. Et cette espèce d'indécision sur les origines éventuellement juives ou musulmanes, me ravit. J'ai tellement horreur les communautarismes de tous ordres.
Donc, être espagnol, c'est un réel handicap. Pourquoi vous avez écrit ça? Le narrateur dit ça à un juge, il fait les questions et les réponses. Ah ben vous aussi, vous êtes espagnol comme moi, c'est un réel handicap dans la vie.
Ça a été un réel handicap pour mes parents d'être des étrangers en France. Ça a été un certain handicap dans mon enfance, comme je vous l'ai dit hier, parce que je parlais un français de guingois. Et c'est un surcroît de richesse, je ne sais pas comment le dire, puisque ça me permet l'accès à une autre culture, à une autre littérature, à une autre façon de regarder les choses. Et ça me permet aussi de ne jamais... De ne pas me sentir aussi propriétaire d'une langue, puisqu'elle est aussitôt menacée par une autre. Ça permet aussi de ne pas être assis souverainement sur sa culture, comme si c'était la seule au monde. Il y a quelques avantages, mais qui sont l'envers des handicaps. Mal parler le français, c'est... Quand je suis enfant, c'est à la fois un handicap et c'est une faiblesse qui se renversera en force plus tard. Hein. C'est Cervantes qui disait qu'il fallait faire de cada flaqueza una fuerza, qu'il fallait faire de chaque faiblesse une force. Et si la faiblesse ne vous détruit pas, et si on arrive à la dépasser, elle a quelque chance de devenir une force.
Et le caractère espagnol, Lydie Salver, c'est quoi? Comment vous pouvez le qualifier?
Alors, très machiste chez les hommes de la famille, ce qui faisait dire à ma mère, surtout n'épousez jamais un espagnol de votre vie. Et on a obéi à ma mère aveuglément. C'est un rapport... très différent, je le disais hier, au mauvais goût. Je crois que le mauvais goût, c'est toujours le mauvais goût de l'autre, de toute façon. Comme dans l'idéologie bourgeoise, il n'est pas question de dire qu'il y a des distinctions de classe. on déplace les distinctions sur une autre scène, et entre autres la scène du goût. Donc il y a ceux qui ont bon goût, qui serait la classe nantie, et ceux qui ont mauvais goût, qui serait la classe populaire. Ceci dit, le rapport au bon et au mauvais goût est différent en France. En France, donc, il me semble qu'on est toujours sous l'emprise classique depuis 1635 et que chaque coup porté à la bienséance de la langue est plutôt mal vécu en France, bien qu'on pourrait citer Céline et bien d'autres, des exceptions qui confirment cette règle.
1635, c'est la création de l'Académie
française. C'est la création de l'Académie française, donc pour afin que la langue française soit à hauteur du prestige royal et de sorte que disparaisse de cette langue tout ce qui pourrait ressembler à de la souillure, à des inconvenances. Au rire gras qu'on trouve chez Rabelais, il ne s'agit plus de rire. À gorge déployée, on sourit.
Molière, on rit.
On rit rarement de choses vulgaires. Si vous... Oui. On rit parce qu'il y a beaucoup d'esprit. Mais oui. les classiques ont beaucoup d'esprit. On sourit plus qu'on rit, me semble. Mais oui, peut-être qu'il y a chez Molière quelque chose... Mais le mauvais goût n'est pas poussé au point où il est poussé chez Quevedo, par exemple.
Mais là, vous me parlez de la langue, Lydie Salvert, oui. Mais dans le...
Oui.
Dans le... Alors, vous nous
dans
avez
la
dit...
Vie.
Le caractère espagnol d'un homme, c'est machiste. Le caractère espagnol d'une femme, c'est quoi? Et ce mauvais goût dans la vie, dans les rapports avec les autres, il se traduit comment? Dans le rapport au monde?
Alors, mais je vais en revenir encore à la langue, mon Dieu, c'est une obsession. Mais les femmes, comme les hommes espagnols, jurent à tout bout de champ. Ce sont des artistes de l'injure. Mon père jurait à tout bout de champ, mais il ponctuait chaque phrase et j'ai essayé de le retranscrire dans Papleret, bien plus qu'en France. Il y a le rapport au religieux, au blasphème, est plus présent en France. Peut-être parce que l'emprise du catholicisme a été plus profonde et plus lourde. C'est une hypothèse, je n'en sais rien. Les femmes espagnoles de la génération de ma grand-mère étaient des femmes qui n'existaient pas, qui vivaient à l'étouffée, qui vivaient sans vivre. En tout cas, qui n'avaient aucune initiative. Il fallait se plier à l'ordre masculin, absolument. Ma mère, bien qu'elle ait pris des leçons dans l'insurrection libertaire, est restée malgré tout une femme soumise à son mari. Mais en fait, ce qui m'amusait beaucoup dans ma famille, c'est que mon père donnait le sentiment qu'il avait le pouvoir, qu'il tapait sur la table. Qu'il décidait, qu'il était l'homme communiste et stalinien de surcroît. C'est ma mère, en fait, qui avait tout le pouvoir affectif sur nous et qui l'a gardé. C'est ça qui est intéressant.
Et il y avait une complicité entre vous, votre sœur et votre mère dans cette résistance au machisme.
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Toute l'enfance, elle est, bercé par cette complicité entre mes sœurs et ma mère contre mon père. Pourquoi tu n'épouses pas un autre homme? Mais oui. Il était sévère, il était autoritaire, il était dogmatique. Je me réconcilie avec lui à la fin, je vous rassure. Mais oui, donc ma mère avait au fond le pouvoir sur les cœurs. Et sur les esprits. Mon père fixait la règle. Les sorties. Interdiction d'aller dans les bals, etc.
Et la politique, Lydie Salvert, c'était pour votre père et pas pour votre mère?
Alors...
Ce sont les hommes et pas nous.
La politique, oui, c'était le père qui la dictait. Et ce père qui, qui reste stalinien jusqu'à la fin, qui s'en prend à la télévision décrétée comme libérale et capitaliste à peu près chaque jour, et contre laquelle il s'emporte. Oui. Et il va devenir muet avec la chute du mur de Berlin. Alors là, il se produit pour lui une sorte de cataclysme intérieur.
Il arrête de parler ? Non,
non, mais
c'est arrivé à...
Mais ouais. Il ne sait plus... en tout cas, politiquement, il est complètement mis KO. Lui qui a été un si fervent communiste. Je me souviens par exemple, je me souviens parfaitement que mon père pleure, mon père que je n'ai évidemment jamais vu pleurer. Un homme espagnol ne pleure pas, sachez-le. Il pleure pour la mort de Staline. Et comme elle est annoncée avant, en France, que sur la radio qu'il écoute, Radio Moscou, quand il l'entend pour la première fois, il dit que c'est un mensonge des capitalistes. Il ne veut pas le croire. Il ne peut pas le croire. C'est impensable que Staline meure. Je vis avec ce père. Inutile de vous dire que je ne militerai pas au Parti communiste à l'adolescence et que j'ai quelques faiblesses pour les mouvements libertaires.
L'Espagne, Lydie Salvaire, vous l'avez dit, c'est aussi le catholicisme.
Oui.
Quel rapport vous avez avec l'Église ? Parce qu'il y a l'Église de 36, il y a l'Église... Oui. Bon, mais il n'y a pas que ça, est-ce que...
Ben, c'est compliqué, puisque nous sommes interdits de catéchisme à l'école, ce qui nous met dans une position singulière qui nous fait honte. Nous sommes interdits d'église, ce qui nous fait honte. Il n'y a pas la première communion, etc., ce qui nous fait honte. Et puis... curieusement, à l'âge adulte, je vais adorer la... Peut-être justement parce que j'ai évité le passage par le catéchisme qui dégoûterait, je crois, les plus fervents catholiques de la religion, j'en sais rien, mais je vais avoir beaucoup de goût pour les textes religieux et je vais les relire assez régulièrement.
Il y a un catholique, un croyant que vous aimez, c'est Pascal.
Oui.
Qui est janséniste.
Oui.
Pourquoi vous l'aimez ? Parce que vous aimez aussi son jansénisme.
Sans doute. Parce que... Enfin, j'aime plutôt la lecture de Pascal que fait ce guide touristique dans La puissance des mouches, pour être plus précise. Parce que La puissance des mouches, ça n'est rien d'autre que l'aventure d'un homme et d'un livre. C'est ça l'histoire.
Il est guide touristique à Port-Royal.
Il est guide touristique, mais ce qui le meut, c'est qu'il a lu Pascal, mais qu'il a lu Pascal comme un lecteur idéal. C'est-à-dire qu'il n'a pas lu Pascal pour faire de Pascal matière à citation, ni matière à commentaire dans les dîners, ni matière à exposer. Il a vécu la lecture de Pascal comme une expérience, comme quelque chose qui a changé radicalement sa vie. Que Pascal puisse dire qu'il soit possible à tout homme de penser sa vie a sur lui un effet extraordinaire. Le fait que Pascal dise que tout homme, pour être homme, doit se savoir mortel, change à tout jamais le rapport à sa vie. C'est un lecteur idéal. C'est un lecteur parfait. C'est un lecteur qui se fiche complètement de comment dire, d'une approche professorale de Pascal. C'est une approche poétique qu'il comprend sans comprendre, dont il comprend l'incompréhensible qui ne cesse pas d'être, disait Pascal. J'aime tellement cette phrase. L'incompréhensible qui ne cesse pas d'être. On devrait se répéter ça souvent. Et la littérature comme exercice pour ne pas comprendre, pour résister aux significations toutes faites et aux pensées, et aux prêt-à-penser, aux prêt-à-parler, bref. Donc, c'est ce Pascal-là, c'est le Pascal de ce guide que j'aime, c'est-à-dire un Pascal que le premier analphabète devrait pouvoir comprendre. C'est une chose qui me plaît.
Votre pensée préférée, Lydie Salvert, le guide dit quelle est sa pensée de Pascal préférée et la vôtre?
Je l'ai oubliée.
Alors, ce n'est pas le roseau pensant. Je crois que c'est le divertissement.
Oui,
je crois que c'est ça, parce que
évidemment,
pour supporter
la pensée d'être mortel, divertissons-nous inclus par les guerres et par les divertissements de tous ordres. En ce moment, la pensée qui m'est le plus, qui m'affecte le plus, c'est cette pensée qu'un homme n'est homme que s'il se sait mortel. C'est parce que nous vivons, moi j'ai vécu jusqu'à tout récemment dans le déni spectaculaire de ma condition mortelle. C'était de l'ordre de l'impensable. Même quand je lisais Pascal, je pouvais citer cette phrase, la trouver intéressante, sans que j'en fasse moi-même l'expérience intime. Disons qu'aujourd'hui, cette phrase de Pascal me parle.
Et qu'est-ce que ça change dans la vie?
Plein de choses. De ce savoir mortel, plein de choses.
Il y a un homme du 17e que vous aimez beaucoup moins, c'est Descartes.
Que Pascal corrige, puisqu'il dit... le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais.
Et vous aimez le 17e siècle.
Je vous ai interrompu.
Vous aimez ce siècle.
Ah, mais oui.
C'est le siècle.
De la littérature classique. Ouais. De l'apparition de la littérature classique. De cette merveille, de cette perfection de la littérature classique. Je ne me lasse pas.
C'est le siècle baroque. Vous avez une écriture baroque? Vous diriez que votre écriture est baroque, Lydie Salvert?
Il se passe cette chose, c'est que dans les romans précédents, comme je faisais, qui sont Hymne et BW, j'y faisais un éloge de Hendrix et de celui que j'appelle BW. Et curieusement, l'éloge m'avait... Le mode de l'éloge... La langue de l'éloge m'avait rendu beaucoup moins possible le parler baroque, l'ironie, les différents registres de langue, la malséance. Elle les avait un peu interdits et j'en ressentais comme un manque. Alors que dans Pas pleurer, je me suis laissée aller vraiment à dire toutes ces langues. Parce que le baroque, qu'est-ce que c'est? Ce sont le baroque dans l'art, outre le foisonnement, comme on le sait, etc., c'est lorsque deux mouvements contradictoires s'embrassent. C'est Eugenio d'Ors qui dit ça. Dans Pas pleurer, j'aimais, et dans d'autres, que s'embrasse la langue parfaite de Bernanos, la langue très incorrecte de ma mère, la langue politique des anarchistes, celle des militants communistes, celle des chansons, etc., etc. Je suis revenu en quelque sorte à ce qui souterrainement me travaille, à savoir ce baroque que je dis espagnol.
Et vous l'aimez, que français. Ouais. Lydie Salvert, vous avez aussi d'autres admirés, c'est un mot que vous employez souvent. Il y a le baroque espagnol, mais il y a aussi l'Angleterre, il y a Virginia Woolf et Emily Brontë. Oh, oui. Et on sent que vous aimez leur pays aussi, avec ce que ça charrie de violence envers les enfants, de rigueur. Et alors, comment vous mariez? Qu'est-ce que vous aimez dans l'Angleterre et dans les écrivains qu'elle fabrique?
J'aime ces femmes. Chez Emily Brontë, ce que j'ai aimé infiniment... c'est ce qui me paraît être un geste inaugural chez elle, un geste d'écrivain. Cette petite fille, refuse dès l'enfance tout savoir scolaire. C'est-à-dire que dès qu'on la met à l'école, elle meurt. C'est extraordinaire, ce refus. C'est-à-dire que les formes apprises de la langue anglaise, le bien dire tel qu'on le conçoit à l'école, la discipline, toutes ces choses, elle les refuse, mais au point de se laisser mourir. Je trouve ça extraordinaire dans sa biographie. Et je trouve extraordinaire que cette jeune femme, dans les années 1800, je crois qu'elle naît en 1830, c'est ça, hein, 20-30, elle meurt en 1841, je crois.
Elle est...
faudra vérifier.
Non, je crois qu'elle elle publie Les Hauts de Hurlevent en 1848.
Ah, je plus crois, tard, donc.
Puisque c'est publié d'accord. un siècle avant votre naissance.
D'accord,
je crois qu'il y a
c'est ça.
Alors,
bref, mais, elle, mais en elle, tout elle cas, tout elle vit à une époque où les femmes n'ont strictement aucun pouvoir, et celui d'écrire encore moins que les autres. Où lire le journal du temps d'Émilie Brontë était considéré comme une faute de mauvais goût. Ne parlons pas de lire des livres, etc. Et qu'Émilie Brontë, donc, si jeune, et ses sœurs, écrivent ce roman qui est une pierre jetée aux passions moyennes, qui est un éloge de l'amour le plus radical, le plus absolu, la défense la plus absolue de l'amour qui dépasse, qui déborde les appartenances de classe. Je trouve ça tellement extraordinaire, et je ne suis pas la seule, puisque Virginia Woolf lui fait un éloge extraordinaire, et que Bataille dit d'Émilie Brontë qu'elle a écrit le plus grand roman d'amour du monde. J'aime Émilie Brontë, j'aime... Par exemple, puisque j'ai travaillé sur sa biographie, j'aime ce fait où elle voit un chien un jour arriver dans le jardin de son père, qui est révérend du village pasteur. Elle a un amour inconsidéré des animaux. Elle va vers lui, elle veut le caresser, et ce chien la mord violemment à la main. Or, c'est l'époque de la rage, et elle se dit qu'il faut qu'elle fasse quelque chose pour ne pas être contaminée par la rage. Elle est très jeune, elle va chez elle, elle prend un pique-feu, elle le met sur le feu, elle l'applique sur sa plaie, sans un mot. C'est Heathcliff, c'est Heathcliff, c'est l'orgueil absolu, c'est le courage absolu, c'est magnifique. Ce geste-là annonce tous les autres, annonce l'écriture. Ce geste-là, c'est Les Hauts de Hurlevent. C'est la même chose pour moi. Ou presque. Voilà, ce sont des femmes dont j'aime les textes et dont j'aime la vie, ce qui est quand même magnifique quand ça arrive. Ce n'est pas toujours le cas pour les écrivains qu'on aime. Et j'aime leur vie.
Mais elles ont des vies... On dirait aujourd'hui qu'elles sont bipolaires, on dirait ça. Elles ont des vies...
Sylvia Plath et Woolf.
Et Woolf, oui.
On pourrait les désigner aujourd'hui par ce terme horrible
oui.
de bipolaire. Oui, elles avaient un lien avec la mélancolie, avec la mort, toutes les deux.
Et vous aimez aussi Lydie Salvaire, Kafka, Thomas Bernhard.
Oui.
Alors,
oui.
on est loin du baroque
de
l'abondance, de la joie. De la, qu'est-ce que vous aimez ? Pourquoi vous aimez Thomas Bernhard ?
Kafka d'abord, peut-être. Kafka. Ce que j'ai aimé chez lui, infiniment, c'est que pour dénoncer l'ordre de la domination, l'ordre bureaucratique, l'ordre du pouvoir, il ne dit pas « regardez comme ils sont méchants », il prend la langue de ceux qui le subissent. Il habite la langue bureaucratique, et il la travaille du dedans. Pour moi, dont la faiblesse serait toujours d'expliciter le politique, mais j'ai essayé de faire attention dans Passage à la nuit, si on en parle peut-être, C'est un magnifique exemple de ce qu'il est inutile de faire. Lui, il se met au cœur même de la domination. Il se met dans la posture même de... C'est un cafard dans la métamorphose, c'est quoi ?
Une blatte.
Je trouve ça remarquable chez Kafka.
De celui, dans la posture de celui qui est écrasé, piétiné.
Plutôt que de dire, on va dire que les méchants sont là, regardez comme ils sont méchants. Je trouve ça littérairement extraordinaire.
Et Thomas Bernhard, Lydie Salvaire.
Thomas Bernhard, il dit, dans je ne sais plus quel livre, que son geste inaugural à lui, c'est quand tous les lycéens de son âge prennent le trajet du lycée, lui prend le trajet inverse, vers le commerce, vers la ville pauvre, vers l'endroit où il va travailler comme apprenti épicier. C'est extraordinaire. Je pense qu'il faut faire, il faut arriver à faire ce demi-tour si on veut écrire quelque chose. Puis sa colère tellement réjouissante, tellement jubilatoire, tellement drôle. Il me fait rire, Thomas Bernhard. Oui.
Merci beaucoup, Lydie Salvaire.
Merci à vous.
À demain soir.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Bloch-Lainé et de Lydie Salvaire. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Étienne Leroy, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr.